Selon Marzeh Siddiqui, qui plusieurs autres femmes seront prochainement nommées à des postes équivalents dans la santé publique. Pardon, excusez-moi, je vous ai sauté tout un immense paragraphe. Donc je disais qu'il y avait des possibilités de collaboration entre les femmes islamistes et les femmes laïques. Alors, nous savons, disent les islamistes, que les laïcs ne partagent pas nos convictions, dit la rédactrice par exemple d'un magazine à grand tirage religieux qui s'appelle Farzaneh. Mais cela ne nous pose aucun problème, car nous œuvrons toutes pour promouvoir le statut de la femme. Nous les islamistes, nous avons abandonné l'idée selon laquelle nous étions les seules héritières de la révolution. Nous sommes consciente que notre sectarisme des premières années a abouti à l'isolement de nombreuses femmes compétentes et bien sûr cela au détriment de toutes les femmes. Alors aujourd'hui, nous voulons compenser nos erreurs. On retrouve le même son de cloche chez la rédactrice en chef du magazine Sanane Les Femmes dont nous parlions tout à l'heure. Elle s'exprime ainsi. Nous devons tolérer et respecter les convictions des unes et des autres, même si nous ne partageons pas la même philosophie, la même croyance, la même pensée. Nous pouvons et nous devons travailler ensemble. Alors, malgré les attaques verbales et parfois physiques des traditionalistes, des femmes continuent à remettre en question l'interprétation par le clergé de ces lois comme des versets coraniques. Des interrogations qui ont gagné petit à petit les villes saintes, même l'école religieuse de la ville de Qom, par exemple, s'en préoccupe. La publication du magazine féminin Payan et Tsan en témoigne. La discussion de fond s'étend et avec elle, la bataille contre la ségrégation sexuelle. Et c'est ce qui illustre les débats en cours dans les fameux magazines féminins dont nous parlions, mais également aussi les prises de position lors des élections législatives qui ont eu lieu en mars et avril 1996. Plusieurs candidates critiquèrent alors le code civil et la sous-représentation des femmes dans les instances administratives et politiques. Parmi les femmes sollicitant les suffrages de leurs concitoyens et concitoyennes figuraient de nombreuses femmes que l'on pourrait appeler technocrates, islamistes, qui au contraire des femmes traditionnelles hommes ou femmes, d'ailleurs hommes ou femmes, pas seulement femmes, aspirent à une ouverture sur le monde. Elles sont diplômées des universités, iraniennes ou étrangères, souvent anglophones. Leur vision de l'islam s'affirme moderniste et cette vision prend en compte les changements sociaux, politiques et culturels qui bouleversent la société. Alors, par exemple, une femme qui est députée dans la deuxième ville de l'Iran, c'est une jeune femme technocrate islamiste qui dirige une société internationale de transport. Elle figure parmi les fondatrices en 1992 de l'Office des affaires des femmes. Son rôle, explique-t-elle, est de détecter les problèmes et les lacunes et proposer des solutions pour combler les vides et améliorer le statut de la femme et son rôle économique, social, culturel et politique. 4 ans plus tard, après la fondation de cet organisme, eh bien celui-ci a obtenu la modification de certains articles des lois sur la famille afin de mieux protéger les droits des femmes mariées ou divorcées. Ces réformes, bien évidemment, sont limitées, souvent ne sont pas appliquées. Mais en revanche, l'exclusion des femmes des postes administratifs responsables a été supprimée et les conseillères judiciaires apparaissent depuis peu dans les tribunaux. Et pour la première fois, en janvier 1996, il y a un an tout juste, eh bien, une femme est devenue vice-ministre de la Santé. Et selon cette femme, eh bien, plusieurs autres femmes seront prochainement nommées à des postes équivalents à ce type de responsabilité et une femme occupera très prochainement un portefeuille ministériel dans le prochain gouvernement. Mais la fonction de juge, dont nous parlions au tout début de cet article avec Madame Rajfanzani, la petite fille du président actuel de la République iranienne, eh bien cette fonction de juge reste interdite aux femmes et la représentation féminine dans les hautes instances administratives et politiques demeure extrêmement faible. Et malgré une importante mobilisation des femmes, entre autres islamistes, aux dernières élections législatives, eh bien, beaucoup de candidates n'ont pas été habilitées, reconnues par le Conseil des gardiens de la Révolution. Les résultats de plusieurs villages de province ayant élu des femmes dès le premier tour, dont par exemple la ville d'Isfahan, la troisième ville du pays, eh bien, elles ont été invalidées, ces élections, sans raison valable. Résultat, le 5e Parlement islamique ne compte que 10 femmes, soit 4% des députés. On comprend dans ces conditions que les timides évolutions en cours en Iran ne suffisent bien évidemment pas à calmer chez les femmes laïques des sentiments d'insécurité, d'angoisse et de méfiance à l'égard du pouvoir. La relance des campagnes sur l'invasion culturelle occidentale et ses fameux vecteurs en terre d'islam, comme on dit là-bas, eh bien menace en tout premier lieu les femmes laïques, dont les aspirations et le mode de vie sont dénoncés comme une incarnation des valeurs occidentales décadentes. C'est surtout l'expression de l'impuissance de l'État iranien à gérer une société post-islamiste. Et ces débats sont amplifiés par le nombre toujours plus grand de femmes appelées mal voilées. Alors malgré des sanctions pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement, l'obligation du port du voile n'a pas obtenu en effet les résultats escomptés. Beaucoup de femmes, surtout dans la jeune génération, celle pourtant qui a grandi sous le régime islamiste, eh bien ces jeunes femmes manifestent leur désaccord en laissant dépasser au scandale, aux révoltes, quelques mèches de cheveux, ou bien en se maquillant, ou en modernisant leur tenue. Vous voyez à quel type de signes en sont réduites les femmes iraniennes, mais elles bougent et c'est ça qui est important, parce qu'on nous a trop souvent expliqué qu'elles étaient écrasées sous le poids de l'islam. Alors leur réticence à porter de longs habits sombres, d'ailleurs absolument inadaptés à la vie active, a conduit par exemple l'organisation de la propagande islamique à changer complètement de cap. Elle a organisé une exposition de vêtements féminins il y a de cela 2 ans et les tissus sombres avaient cédé la place complètement aux tissus vifs et colorés et le voile islamique traditionnel, le tchador, avait cédé la place à des foulards colorés que portent par exemple habituellement les femmes des tribus et les paysannes. Alors à l'époque, cette exposition avait été absolument vivement critiquée par les traditionalistes. Certaines islamistes modernistes, dont la présidente de l'Office des affaires des femmes, s'opposent ouvertement au port obligatoire du tchador et soulignent qu'il n'est pas le seul voile possible. Et suite au succès fulgurant d'un des numéros du magazine dont nous parlions tout à l'heure, Zanane, les femmes, qui affichait à la une la photo d'une femme metteur en scène mal voilée et portant des lunettes de soleil de type Ray-Ban, eh bien le magazine a dû pour la première fois procéder à un deuxième tirage, acte de la censure. Alors de quoi bien sûr exacerber la colère des traditionalistes. Ceux-ci prétendent interdire aux femmes certaines activités sportives en public, comme par exemple l'équitation et le cyclisme, dont la pratique mettrait en péril le port du voile. Je vous laisse comprendre ce que ça a à voir avec la pratique du cyclisme. Le cyclisme féminin, répond Madame Fazeh Razvanjani, n'est ni illégal ni illicite. Mais si cette affaire est devenue d'un tel enjeu, c'est qu'elle a coïncidé avec les élections législatives et que certains ont voulu lui donner une dimension politique. Mais leur opposition a au contraire suscité une forte revendication pour le cyclisme de la part des femmes. Et comme à chaque fois qu'elles sont en butte aux attaques des traditionalistes, eh bien, les femmes ont utilisé toutes les brèches pour faire avancer leur cause. Et en reprenant à son compte cette revendication, eh bien, la fille du président Razvanjani a beaucoup gagné en popularité dans la jeunesse, mais elle est simultanément devenue la bête noire des intégristes qui lui consacrent nombreux articles et caricatures hostiles dans leur presse. Alors la portée des batailles remportées par les femmes en Iran dépasse bien sûr largement les sphères des intellectuels. C'est toute la société que ces batailles rendent fébrile. Elles agitent jusqu'au quotidien des rues et des maisons. Et malgré la volonté affichée des traditionnalistes de contenir ce mouvement, eh bien la formation d'une identité sociale féminine devient visiblement irréversible en Iran. Et une grande partie des Iraniennes, qu'elles soient laïques ou religieuses, rejettent les inégalités institutionnalisées et revendiquent une lecture vivante et adaptée de l'islam. Elles sont les protagonistes d'une lutte qui dépasse leur sexe. Elles contribuent en fait à l'évolution de leur société. Et à l'heure où l'islam politique montre ses limites en Iran et où le fossé, comme on le disait, entre la société civile et l'État ne cesse de s'élargir, eh bien, seule la réforme de la pensée religieuse et l'ouverture de la religion à la modernité peut empêcher une rupture définitive. Et les femmes vont jouer un rôle important dans tout cela. Et pour nous qui apprenons toutes ces nouvelles que vous pouvez trouver retrouvée dans un article du Monde diplomatique paru en novembre 1966 sous la plume de Azadeh Khan, qui est chercheur au CNRS à Paris. Eh bien, toutes ces nouvelles nous réjouissent beaucoup parce que trop souvent, nous avons l'impression que les femmes en Iran, comme je le disais tout à l'heure, sont écrasées par le poids de la religion. Et c'est une très bonne nouvelle de savoir qu'elles se battent et qu'elles gagnent petit à petit, qu'elles grignotent des batailles. Vous êtes toujours dans la planète femme, c'est Ondes Femmes, Remue Ménage, Radio Zone 93.8. Nous quittons le continent des femmes musulmanes et de la musique traditionnelle arabe, musique traditionnelle qui évoque les cérémonies du mariage, et pour partir dans un tout autre bord continental, puisque nous allons en Amérique du Sud et nous allons voir comment les femmes au Brésil ont décidé de prendre les armes pour se défendre et comment des premiers groupes féminins armés d'autodéfense apparaissent dans ce pays comme réponse à la violence croissante.
Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, a lata. A lata no fundo da madrugada, silêncio na tolada, de repente foi chupada.
Face à l'ampleur de la violence au Brésil, les réponses se multiplient et s'adaptent aux circonstances. Peut-être la riposte la plus inattendue est celle de l'apparition des bataillons féminins armés. Dans un pays habitué au machisme et où les questions de défense sont normalement une affaire d'hommes, l'éclosion d'un mouvement de femmes armées est évidemment un phénomène nouveau. Selon un récent rapport de la police, l'exemple est venu de Nova Fribourg. Vous vous rappelez cette ville fondée au début du siècle par des colons suisses? Eh bien, la plupart des migrants étaient originaires du canton de Fribourg, d'où le nom de cette cité, inconnue autrefois. Elle fait aujourd'hui parler d'elle. Et par exemple, Madame Venina Rosa Ponte, qui est l'une des femmes membres d'un groupe armé, raconte tout simplement la naissance de cette tendance. Tout s'est passé de façon spontanée, dit-elle. Au début, les femmes ont commencé à s'armer dans le but de faire face aux voleurs, aux agressions, aux menaces de viol. Et puis, à propos des femmes seules, eh bien, elles devaient non seulement se débrouiller pour obtenir un permis de port d'armes, mais aussi apprendre à tirer. Hors coïncidence, elles ont justement trouvé un prof de tir dans une ferme d'un colon suisse à Nova Fribourg. Alors chaque fin de semaine, des femmes allaient à l'école, si l'on peut dire, pour pratiquer ce qui au commencement ne devait être qu'un moyen d'autodéfense. Mais très vite, d'autres femmes ont rejoint cette association informelle en grossissant les rangs. Alors au lendemain de Noël, il y a 2 ans, 1994, l'une des femmes de l'association est agressée, cambriolée par une bande de jeunes voyous. Comme l'intervention de la police n'a donné aucun résultat, la victime, Madame Vasconcelos, aidée de 4 amis, est partie à la recherche des délinquants. Et à force d'enquêter, ce groupe de femmes téméraires a finalement retrouvé les agresseurs. À l'arme à la main, elles ont fait justice. Un des 4 malfaiteurs a été tué dans l'attaque. qu'elles décident ce qu'elles font elles-mêmes. Hein. Le procès qui s'en est suivi a provoqué une énorme publicité. Tout le monde désormais admirait le courage de ces dames. Et verdict, acquittement. La nouvelle a été reprise dans toute la presse brésilienne et les mouvements féminins ont fait de ce cas un exemple à suivre. Et une année plus tard, le nombre des femmes qui portent des armes est en constante augmentation. Selon la division du contrôle des armes et des explosifs de la police de Rio de Janeiro, sur un total de 21 837 armes achetées légalement en 1996, 542 ont été acquises par des femmes. Les statistiques indiquent qu'elles ont une préférence nette pour le pistolet calibre 38 dans leur volonté d'autodéfense. Et à São Paulo, la police a d'ailleurs dû intervenir pour contrôler un groupe de femmes armées qui avait rattrapé un violeur à la sortie d'une discothèque. Ses copains qui voulaient le secourir ont été arrosés de coups de feu dans les organes génitaux. L'arrivée de la police a pu éviter le lynchage. L'enquête a déterminé par la suite qu'il s'agissait d'un groupe de femmes qui avait pris des cours de tir spécifiques pour se défendre des agressions de type sexuel et elle n'avait pas de permis de port d'armes. Pour la police, l'apparition des bandes de deux jeunes femmes armées est un phénomène nouveau. D'habitude, les femmes qui demandent l'autorisation de porter une arme sont commerçantes ou conductrices de taxi ou caissières ou dames vivant seules. Et pour le chef de la police civile de Rio, il explique sa surprise devant ce comportement. Les Brésiliennes ont généralement peur des armes à feu. Elles préfèrent utiliser comme moyen de défense un canif ou des sprays lacrymogènes. Et les jeunes ont appris les arts martiaux. Mais alors, jamais les armes. Pour les sociologues qui se penchent sur la violence au Brésil, il s'agit pour eux clairement d'une riposte. Pour M. Paulo da Freitas, qui est chercheur, les femmes ne font plus confiance à la police. Il rappelle les plaintes des groupes féministes qui affirment que chaque fois qu'un viol ou des agressions à connotation sexuelle sont dénoncées, la police ne croit pas la victime. Alors dans la mentalité machiste du policier, les femmes y sont toujours pour quelque chose dans les cas de viol. Donc, pour ce responsable de la police, ces arguments sont loin d'être infondés. Il poursuit, si l'on ajoute tous les autres dangers qu'encourent les Brésiliennes, on peut comprendre la perte de confiance. L'instinct de conservation oblige à trouver ses propres mécanismes de défense, même par des moyens très peu employés par les femmes en Amérique latine, comme l'arme à feu. Alors l'apparition de ces nouvelles bandes n'est bien sûr pas très bien tolérée par les autorités et la police, on s'en doute, et des associations pacifistes et religieuses condamnent également ce qu'ils appellent les femmes paramilitaires. Cependant, ces organismes s'indignent aussi de la partialité des policiers qui acceptent l'existence de ces groupes dans certains cas à connotation sociale marquée. Des filles armées et circulant à moto sont tolérées dans les quartiers chics de Rio, tandis que les femmes domestiques des favelas, elles, sont emprisonnées pour avoir un couteau dans leur poche. On refuse aux pauvres le droit d'argumenter sur l'autodéfense comme justification. On ne les croit pas parce qu'elles sont pauvres, lance Nelsinho Costa, qui est un prêtre qui travaille dans les bidonvilles de Rio.
Dá gosto de ver a inteligência movendo corpinho como esse.
Ai, luz gostosa de boate, fervilhante, pagodinho, churrascante. Na noturna suburbana tem garota sangue bom no charme do swing, do desejo inevitável, que é convite irrecusável, que é o açúcar da presença feminina carioca. Quente paraíso do espírito excitado pela festa dos sentidos animados pelo sol. Quente paraíso do espírito excitado pela festa dos sentidos animados pelo mar. Quente paraíso do espírito excitado pela festa dos sentidos animados pelo sol. Quente paraíso do espírito excitado pela festa dos sentidos animados. Garota carioca, swing, sangue bom. Garota carioca, swing, sangue bom. Garota carioca, swing, sangue bom. Garota carioca, swing, sangue bom.
Olha o jeitinho dela andar. Olha o jeitinho.
jeitinho dela paquerar. Oh yeah. Olha o jeitinho dela. Go, go, go.
Alors le Brésil, c'était au son de la musique de Fernanda de Abreu qui nous donnait un peu ces bonnes tonalités du Brésil que nous aimons tant. Et pour finir ce tour d'horizon de la planète femme, par l'intermédiaire de nombreux articles que vous avez pu vous-même trouver d'ailleurs dans le journal Le Courrier, eh bien, nous avons pu avoir des nouvelles de quelques endroits où des femmes aujourd'hui se battent sur cette planète. Et pour terminer, eh bien, un hommage aux femmes algériennes qui continuent à payer très très fort le prix de la violence dans leur pays. Ouria Hachi chante les Aurès dans Remue Ménage, Onde Femme, Radio Zone 93.8.
Oh, proper time, I'm feeling sad, but it really gets bad round midnight. Memories always start round midnight, round midnight. Haven't got the heart to stand. When my heart is still with you, and oh, midnight knows it too. When some quarrel we've had needs mending, does it mean that I'm
encore autour de minuit, même si Nicole Croisy le chante. Il est bientôt l'heure d'écouter les informels de Radio Pleine Lune. Vous êtes dans Onde Femme, Radio Zone 93.8, et Remue Ménage pour aujourd'hui, c'est terminé. Planète Femme, avec l'aide du courrier pour nous faire découvrir la situation des femmes un peu partout dans le monde aujourd'hui, l'Irak, le Salvador, l'Iran, la Bulgarie, le Brésil. À la semaine prochaine.
For your